Le miracle de saint Antoine par Victor Randon. Nous dînions entre équatoriens, avenue de Villiers, chez Norberto Pérez, que nous savions très dévot, du séraphique saint né à Lisbonne. Delphin de Las Peñas était un des commensaux. À la fin du repas, lorsque nous le priâmes de nous divertir avec un de ses contes, il voulut sans doute plaire à notre aimable amphitryon en nous disant « Voulez-vous que je vous révèle un miracle de saint Antoine que Norberto ignore, bien qu'il se vante de les connaître tous ?» Nous acquiesçâmes et il s'exprima en ces termes. Jusqu'à l'âge de 12 ans, époque de ma vie à laquelle mes parents m'amenèrent à Paris pour y faire mon instruction, je vécus sur la rive fleurie du Guayas. Là, à l'ombre des palmiers, se dressait la vaste maison familiale que les flammes d'un épouvantable incendie détruisirent en 1896. Sa disparition fut un de mes plus vifs chagrins. Au sein de cette riante demeure s'étaient écoulées les heures délicieuses de mon enfance auprès de mon adorée Mamachita qui me gâtait très tendrement. Encore aujourd'hui, quand je fais revivre les plus lointaines visions de ma ville natale et que dans ma mémoire se dresse celle de cette demeure chérie, c'est l'image de ma vénérée grand-mère qui se présente la première à ma vue. Comme elle resta désolée quand je fus ravi à ses bras. Il y a de cela plus de 40 ans et je sens encore sur mes joues la chaleur de son dernier baiser. Je ferme les yeux et à la flamme du cœur, je la revois telle qu'elle était le jour de mon départ. Son visage au teint blanc avait été respecté par les rides. Ses traits gardaient le reflet de la beauté de sa jeunesse. Dans ses yeux bleus, la lueur de l'intelligence ne s'affaiblissait pas et sur ses lèvres, le sourire de la bonté s'épanouissait toujours. Je revois aussi, dans ses moindres détails, la pièce où elle se livrait chaque jour à son occupation préférée. Ne ressentant pas le poids de 75 années, elle était infatigable quand elle mettait en gerbe ses fleurs artificielles. Elle s'asseyait dans un grand hamac au centre de la petite salle qui précède l'alcôve. Dans l'encadrement de la porte, s'ouvrant sur la galerie intérieure de la maison, je me balançais souvent dans un autre hamac plus petit quand ma Mamachita ne me berçait pas dans ses bras en me disant des contes amusants, des fables instructives, des épisodes héroïques de l'histoire nationale et surtout de nombreux miracles des saints de sa dévotion. Auprès d'elle, il y avait toujours une petite table carrée sur laquelle se trouvaient les objets nécessaires à son labeur. On y voyait des flacons remplis de colle ou de carmin, de poudres aux nuances diverses, des boîtes d'où débordaient les pétales, les feuilles, les étamines et les pistils, de verres calices, des boutons et des fleurs de batiste transparentes, de soie fine ou de velours. Ma grand-mère était fort habile à dresser les gerbes de fleurs artificielles, pieuses offrandes destinées aux autels de ses saints favoris. La veille des grandes solennités religieuses, les lys, les roses, les dahlias, les pensées, les marguerites rivalisaient en fraîcheur et en éclat avec les œillets, les orchidées, les jasmins, les tulipes et les tubéreuses. Ces fleurs semblaient pousser de tous côtés comme par enchantement. Elles couvraient le parquet, s'emparaient des meubles, grimpaient le long des murs. Je m'imaginais alors que j'étais dans une serre où le printemps gardait ses trésors. Les fleurs que j'y admirais me semblaient plus belles que celles qui s'épanouissaient dans notre jardin. Que de fois, agréant mon désir, ma grand-mère me permit de l'aider à envelopper de papier vert les fils de fer pour imiter des tiges. Que de fois je me suis amusé à coller de travers les pétales autour des étamines. Que de fois aussi je répandis les poudres bleues ou jaunes et je renversais les pots de colle, sans jamais voir un geste d'impatience chez mon abuelita, ni lui entendre exhaler un mot de reproche. Dans cette pièce fleurie, mes regards étaient aussi attirés par les tableaux qui ornaient les murs. C'étaient des peintures de faible mérite artistique. Elles représentaient des saints, des vierges et des martyrs. Je les connaissais par cœur. Je vois encore à leur place respective Saint-Louis de Gonzague, qui portait la discipline pendante de la ceinture et méditait devant une tête de mort. Saint-Giacinto sauvant la statue de la Vierge d'un temple dévoré par les flammes. Sainte-Barbe, qu'un horrible bourreau décapitait sur une colline au milieu des éclairs. En bas, la foudre terrassait l'incrédule et barbare père de la sainte, dont le sang était recueilli dans un calice par 2 anges, tandis que d'autres la couronnaient de roses blanches. Je vois aussi Notre-Dame de Las Mercedes, la patronne implorée des Guayaquiliennes, donnant le scapulaire au saint fondateur de l'ordre de la Merci. Près de l'image de Santa Rosa de Lima était placée celle de la bienheureuse Mariana de Jésus, née à Quito, où, en offrant sa vie à Dieu à l'âge de 20 ans, elle fit cesser la peste qui décimait la capitale de l'Équateur et dont elle fut ainsi la dernière victime. Ma grand-mère ne se lassait pas de me raconter la vie et les miracles de ces saints et de bien d'autres. À la place d'honneur, sous un crucifix, se dressait sur son socle une statuette en bois du séraphique Saint-Antoine portant l'enfant Jésus dans les bras. C'était le saint que j'admirais le plus. Mon abuelita m'avait appris à le vénérer et à l'aimer tout spécialement. Elle me répétait que quiconque l'implore avec ferveur est toujours exaucé. S'il s'agissait de retrouver un objet perdu, son aide était efficace, infaillible. Ma dévotion envers ce saint si bienveillant et ma conviction de ne pas l'implorer en vain s'accrurent à un tel point qu'une nuit, pour obtenir de lui ce que je désirais, je n'hésitais pas à lui manquer de respect. J'avais reçu un des petits écus d'or que l'on distribue alors à Guayaquil dans les baptêmes et qui, depuis, ont été remplacés par des médailles commémoratives. Je le gardais précieusement, mais parfois, je le tirais de ma poche pour le faire briller au soleil ou à la clarté des étoiles. Une nuit un peu sombre, tout en le contemplant, je me penchais sur la balustrade de la cour intérieure de ma maison qui, dans la disposition de cette partie architecturale, rappelait, comme alors presque toutes les maisons de ma ville natale, celle des patios andalous. Soudain, le petit écu m'échappa des doigts. Il s'en alla rouler sur le pavé de la cour que l'humidité constante du climat tropical couvrait de mousse. Quel ennui, quelle angoisse! Je descendis vite à la cour et, palpant chaque dalle, je cherchais partout mon cher écu. Peine inutile, il me fut impossible de le trouver. Je n'avais pas d'allumette. En aurais-je eu, j'aurais craint d'en frotter une et d'attirer l'attention de mes parents qui m'eussent grondé. Les yeux remplis de larmes, je me désolais. Une idée jaillit alors subitement de mon cerveau. Sans m'attarder à réfléchir, je grimpai à la galerie. Je me glissai doucement dans la chambre où ma grand-mère dormait profondément dans son hamac et je m'emparai de Saint-Antoine. Je revins au balcon, à la place où mon écu avait glissé de mes doigts, et priant du fond de l'âme, sans hésiter, je précipitai dans la cour le saint qui trouve les objets perdus. À peine eus-je commis cet acte irrévérencieux, ma conscience me le reprocha comme si ce fût un sacrilège. Convaincu d'avoir réduit en miettes la statue, je dégringolai l'escalier, et le cœur me battant très fort, je relevai Saint-Antoine qui me sembla intact. En le relevant, j'aperçus dans la mousse un point brillant. Je me penchai de nouveau, et rire à qui voudra, ce qui brillait là, c'était bel et bien mon écu d'or. Hasard, coïncidence, miracle, quoi qu'il en soit, mille fois béni l'âge où, dans un vif élan de foi sincère, comme celle qui est capable de faire marcher les montagnes, une âme innocente commet une action pareille, blâmable, dira-t-on, mais que Dieu comprend et pardonne. Depuis lors, ma ferveur ne connut plus de bornes à l'égard d'un saint si aimable et si indulgent que j'embrassai à plusieurs reprises en le rapportant à son socle. Le lendemain matin, ma légèreté reçut le châtiment mérité lorsque devant moi, ma mamachita s'approcha de son Saint-Antoine et, navré, constata qu'il n'avait plus de nez. Sa plainte me fit rougir. J'allais, tout ému, lui avouer ma faute, mais je m'en gardais bien, car je l'entendis s'écrier « Maudite souris, elle ne respecte rien, pas même les saints !» Ainsi s'achève le miracle de Saint-Antoine par Victor Rondon.